Electric Rebels Radio Show, bonsoir. Nous sommes donc mercredi, et comme souvent les mercredis dans Electric Troubles, l'émission radio du fanzine Kavzik, je vous le rappelle, eh bien, il y a des interviewés. Il y en aura un aujourd'hui, le fameux, le boss, monsieur Stéphane Cupillard, alias Mr. Q du label Kicking Records, pour éventuellement, pourquoi pas, évoquer un petit peu le festival Kicking Fest qui aura lieu sur Nîmes, au Paloma, d'ici très peu de temps. Voilà, à la fin du mois, le dernier week-end du mois, si je ne m'abuse. On va le retrouver tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va se balancer un premier morceau qui n'est pas du label Kicking Records. On les avait eu dans mon interview il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sera The Headliners, sur le label Une Vie Pour Rien, je vous le rappelle. L'honneur, c'est le titre du morceau, il me semble. Et puis voilà, on va se retrouver juste après avec Stéphane au téléphone. Voilà, on discutera un petit peu, on diffusera des morceaux de Kicking Records, mais comme ça, un peu à l'aveuglette, hop, parce que nous, on est fous ici, tout simplement. Voilà, allez, on y va. On se retrouve juste après The Headliners. C'est parti.
Every time I talk to myself, I think I'm going wild. And my black moods are raising hell. It slowly drives me mad.
Morceau dans Electric Troubles, il s'agissait de The Headliners, donc qui n'a strictement rien à voir avec Kicking Records. Nous sommes donc avec Stéphane, alias Mr. Q, au téléphone, donc le boss du label. Stéphane, donc un grand merci d'être avec nous. Bon, c'est pas une première, ça, mais là, il était quand même important qu'on discute ensemble, surtout qu'il y a donc le festival Kicking Fest à la fin du mois, donc c'est le 24 et 25, c'est ça, si je ne m'abuse.
24 et 25 voilà. Juin à Nîmes, dans la splendide salle de Paloma.
Paloma, qui est une salle récente.
Une salle qui a 5 ans par là, 5-6 ouais. ans je pense.
Ouais.
Donc oui, qui est assez récente et qui a été très bien pensée. Tant au niveau de l'accueil des artistes qu'au niveau de l'accueil du public. Il y a vraiment, il y a deux salles, il y a une salle de 1004 et une autre salle de un petit peu moins de 400.
Ouais.
Et puis entre les deux, il y a un grand patio à ciel ouvert.
D'accord.
C'est très agréable.
D'accord. Est-ce que c'est comme ça, c'est un truc qui ressemble un peu à la Sirène, à La Rochelle ou des choses de ce genre-là? Enfin, tu sais, les nouvelles salles en fait.
Alors, je ne sais pas.
Tu n'as pas été.
La Sirène, j'en ai fait quelques-unes de nouvelles salles, mais pas celle-là.
D'accord, ok.
Donc,
bon,
je suis bien embêté pour faire ça.
D'accord. Alors, donc, on va parler. Alors, il n'est pas question aujourd'hui de remplacer, je sais que Sam en a fait une avec toi, une interview. J'ai vu aussi sur internet que Guillaume Gouardès t'avait posé quelques questions, notamment tu sais les 10 plus belles choses, machin, tout ça. Voilà, donc
on est vraiment en phase de promotion du festival. Hein,
voilà, donc, on va essayer de poser d'autres types de questions, même si j'ai pas forcément inventé tout, mais j'invite d'ailleurs les gens à aller faire un petit tour pour Guillaume, je sais plus, je crois que c'est sur son blog, il me semble. Enfin, je mettrai les liens de tout ça. Voilà.
Enfin, moi j'ai tout mis dans kickingfest.net.
D'accord.
Le site web du festival. Il y a une rubrique lien le Kicking Fest dans les médias.
D'accord.
Et là, je répertorie en fait toutes les interviews.
D'accord. Voilà. Ben voilà.
Ainsi que tous les concours d'ailleurs. Okay. Si les gens veulent gagner des places, il y a tous les concours pour pouvoir gagner des places.
D'accord. Ben donc je mettrai le lien vers le lien. Comme ça, ce sera très pratique. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est donc ces 10 ans de label là. Qu'est-ce que ça t'a réellement apporté humainement, 10 ans d'activité comme ça?
Humainement, ça m'a permis. J'ai créé le label à une période de ma vie un petit peu charnière, hein, où j'étais au bout d'un truc. J'étais en retour en France, seul, et j'arrivais dans une ville où je connaissais personne. Et donc humainement, ça m'a simplement permis de rebondir plutôt que de m'enfoncer. Voilà.
D'accord.
J'aurais pu m'enfoncer. J'étais dans une période individuelle, personnelle et familiale très difficile. Et je pense que le label m'a simplement sauvé la vie. Voilà. Donc la réponse à ta question,
d'accord.
C'est humainement, ça m'a apporté ça. Ça m'a vraiment permis de rebondir. Et du coup, de m'occuper l'esprit et le corps 24/24, de me dévouer corps et âme à un truc constructif. Et puis ça m'a ramené du coup une nouvelle vie sociale, hein. C'est-à-dire que je suis rentré en France, je connaissais plus personne, quoi. Et puis 10 ans après, je vais pas dire que je connais tout le monde, mais mon carnet d'adresses s'est étoffé et je me suis fait beaucoup de nouveaux amis.
D'accord. Voilà. Donc bref, en s'occupant des autres, tu t'es occupé de toi, quoi. Je comprends bien.
Complètement. C'est souvent comme ça. Hein.
Oui, tout à fait. Tiens, dans le milieu indépendant comme ça, enfin bon, ce vaste mot-là, comment on pourrait définir le rôle d'un type comme Mr. Q?
Ouais, c'est un peu un catalyseur. Quelqu'un qui va faire se rencontrer les gens pour qu'il se passe quelque chose, donc qui va beaucoup jouer, qui va créer ses réseaux et qui va s'appuyer dessus pour que en faire profiter les groupes du label, hein, tout simplement. Faut pas oublier que le but premier, c'est vraiment d'apporter un plus au groupe. Parce que maintenant, les groupes, ils savent, ils ont pas besoin. Ils ont besoin, mais actuellement, ils savent tout faire tout seuls. C'est-à-dire souvent, un groupe, il va savoir faire son disque, il va savoir trouver ses concerts, il va savoir monter un budget, s'autofinancer, rien. Et lui, il a pas vraiment besoin d'un label. Le label, il va juste en rajouter une couche.
D'accord.
Pour donner de la visibilité. Et puis surtout, essayer de faire sortir le groupe de là où il est pour l'amener, pour ouvrir des portes qu'il ne pourrait pas s'ouvrir tout seul.
Voilà. D'accord.
En fait, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est arriver à faire jouer les groupes dans des endroits où ils n'y arriveraient pas tout seul. Et les sortir de leur tournée habituelle et de leur réseau à eux pour essayer de les montrer à plus de public. Voilà. Le but aussi, moi, c'est vraiment d'agrandir le public des groupes.
D'accord. Est-ce que la logique de fonctionnement du label a changé avec les années? Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais plus faire, des erreurs que tu voulais plus renouveler, ou est-ce que, en fait, c'est un long fleuve tranquille?
Alors, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, mais c'est vrai qu'il y a des évolutions. Hein. Je pense qu'en 10 ans, effectivement, ça a complètement évolué, parce que au départ, c'était vraiment avec des bouts de ficelle et puis que dalle, quoi. Mmh. Aucun réseau. Je n'avais plus aucun réseau, comme je le disais. Et puis, c'était le début de MySpace. Mmh. Et, oui. Voilà, et maintenant, c'est plus du tout avec des bouts de ficelle, parce que même si il n'y a pas de salariés au sein du label, il y a quand même beaucoup de coups de main qui viennent de l'extérieur, mmh. tant au niveau du graphisme, des relations avec les médias, que du booking, que de la technique. Je peux vraiment m'appuyer sur beaucoup de gens. Et on travaille moins avec des bouts de ficelle. J'ai aussi, par exemple, j'ai mon van. Au début, j'avais pas de van, quoi. Mmh. Ça, c'était une bonne évolution aussi. Et puis les groupes, j'ai commencé avec un groupe Black Zombie Procession qui était complètement inconnu, pour lequel j'ai sorti, duquel j'ai sorti le premier album. Et maintenant, on en est 10 ans après où effectivement on peut monter ce festival avec tous les groupes et grâce à des locomotives qui sont arrivées entre temps, je pense, principalement au Shérif. Donc c'est plus la même envergure du tout.
Mmh. D'accord. Tiens, on va se passer 2 morceaux là pour voilà pour mettre du son, parce qu'il en faut toujours dans une émission rock. Gaz Drummers et Last Brigade qui seront donc au Kicking Fest. Tiens, t'as un petit quelque chose à dire sur ces deux groupes?
Gaz Drummers et Last Brigade. Alors Last Brigade, c'est le groupe local, hein, c'est-à-dire que.
Eh oui, c'est vrai.
Ils sont de Nîmes. Ils sont de Nîmes. Je suis de Nîmes. Richie Buzz et Jean-Mi Turco. Je les vois régulièrement. Richie Buzz fait partie de ma famille maintenant. Donc il y a toute une histoire personnelle. Hein. Comme je disais hein, au début, mais là il y a vraiment une histoire personnelle parce qu'on s'est connus avec Richie parce que j'ai sorti son premier album. Ensuite j'ai sorti son deuxième album et là il s'est dit ah bah tiens je peux peut-être lui présenter ma sœur finalement. Tiens, il a l'air sympa ce gars. Voilà, donc il a fini par m'avouer qu'il avait une sœur qui depuis est devenue ma compagne. Voilà. Donc
ouais, c'est encore une histoire de réseau quoi.
Ouais. Donc, on s'en fout, mais voilà, quand on parle de la Brigade, bah c'est la famille. Voilà. D'accord. C'est la famille. Voilà.
Okay.
Mais il n'est pas pistonné pour autant, parce qu'on avait sorti les disques avant. Hein.
Ouais.
Voilà, et puis Gaz Drummers, c'est des gars avec lesquels je m'entends très bien depuis la première fois que je les ai fait jouer sur Toulouse. Après, on avait passé un after show à bien rigoler et j'apprécie vraiment la musique qu'ils font. J'ai vraiment apprécié le premier album d'eux que j'ai sorti, Decalogy, qui sortait un petit peu des sentiers battus du label déjà à cette époque-là. Voilà, j'aime leur démarche, je trouve que c'est des super musiciens qui produisent très bien leurs disques. Et c'est des mecs cool et ils ont toujours la banane.
Ok.
Alors que ça fait un moment qu'ils traversent une période de crise assez coton. Et les mecs, ça va toujours. Ça va toujours.
Ok. Bon, bah, on va s'écouter ces deux groupes, donc 2 morceaux, et on se retrouve juste après. C'est parti.
Maybe it's not too late.
Donc à l'instant, Last Brigade. Alors, est-ce qu'un label comme Kicking Records a, comment dire, a intérêt à ronronner un peu dans son mode de fonctionnement, c'est-à-dire sans trop de risques, c'est-à-dire à faire éventuellement avec les potes, ou est-ce que justement tu peux prendre des risques un peu? Est-ce que dans la période actuelle c'est encore possible?
Ouais, je sais pas si je me pose vraiment cette question de prendre des risques ou pas. De toute façon, ce sont des risques.
Ouais.
Sortir un disque de punk rock, pour faire simple, en 2016, comme le sous-titre du label, c'est comme un short suicide. Mm. Et c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que c'est prendre des risques. Alors c'est sûr que quand tu sors un disque du Sheriff, t'en prends pas beaucoup. Mmh. Mais 80% du catalogue, c'est des risques. Donc si on prenait pas de risques, si on était là juste pour sortir des rééditions et puis ronronner, on se ferait vite chier et il y aurait plus de... Enfin, autant vendre des pommes et des oranges et du fromage, quoi, tu vois. Il n'y a plus d'intérêt. Alors, l'intérêt, il n'est pas forcément dans le disque, hein. Il est juste dans le fait qu'on sort des trucs qui nous plaisent et qui nous plaisent à nous. Et si on les sort nous, ça veut dire qu'ils plaisent à personne d'autre. Enfin, ma démarche, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que je le fais parce que personne ne le fait, parce que les professionnels ne le font pas. Si ça plaît pas, si les professionnels pensent que c'est pas bon pour eux de sortir un disque de Flying Donuts ou de Last Brigade, c'est parce que c'est pas rentable. D'une part, et d'autre part, ça rentre pas dans les critères artistiques du moment non plus. Donc voilà. Donc, on est obligé d'avoir du label comme le mien, comme d'autres en France et dans le monde, pour sortir ces disques. Donc forcément, oui, là, ça veut déjà dire qu'il y a un risque.
Ok. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait encore faire rêver un mec comme, comme toi après 10 ans de label ? Je parle musicalement.
Je sais que je vais sortir un ou deux disques au moins en 2017. J'y pense déjà souvent à ces disques-là. Il m'excite déjà, tu vois, c'est dingue. Donc déjà ça, ça me fait rêver. Après, non, il y a peut-être des groupes effectivement que j'aimerais. Mais j'ai déjà accompli pas mal de mes rêves avec ce label. Au départ, je me suis pas dit tiens, je vais faire un label et je vais sortir des disques. En fait, je le savais pas. C'est arrivé comme ça, des fils en aiguille. C'est un pas, puis il y a un autre qui suit, puis la main, puis finalement, tiens, finalement, ce que je fais, c'est un label, quoi. Et bah, tu vois, le fait d'avoir sorti le split avec Peter Black, Gardons, le fait d'avoir sorti un disque de Dio et le fait d'avoir sorti même le premier disque, le Black Zombie Procession, alors que j'étais hyper fan de Second Rate et de Los Cowboy Heroes, bah déjà ça, c'était cool, tu vois.
D'accord.
Donc, les rêves, je sais pas.
Ouais.
Non, continuer comme ça, à me faire plaisir, coup par coup. Puis de toute façon, le jour où ça n'excitera plus, ça arrêterait.
D'accord. Dis-moi, tout à l'heure, tu disais justement que tu t'es, petit à petit, là, tu t'étais entouré de pas mal de gens sur qui tu pouvais un peu t'appuyer dans l'organisation, etc. Justement, c'est quoi ? Ce sont des gens que t'as rencontrés au fur et à mesure, des membres de groupe, ou des pros, je sais pas, de certains domaines, la promo ou je sais pas moi, le booking,
non, tout ça. Ouais, ou des gens qu'on, je pense principalement à Thibaut, de Wildcard Booking, qui maintenant tient la base dans notre scientist. Bah lui en fait c'était un fan de punk rock au départ, qui cherchait un stage quand il faisait un DUT de je sais pas quoi là dans la culture, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, et voilà, et qui donc tout de suite s'est tourné vers moi, et à partir du moment où il est venu en stage chez moi et qu'il a fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne correctement, bah voilà, c'est devenu quelqu'un sur qui je m'appuie régulièrement et sur qui j'ai confiance. Donc il y en a pas beaucoup, c'est sûr. Mais déjà il y a lui, après il y a Ben qui s'occupe des relations médias pour le Kicking Fest là aussi, qui fait du très bon travail. Pareil, c'est quelqu'un qui m'a démarché, qui au départ est fan du label et connaît et l'histoire du label et l'ABC du punk rock, quoi. Voilà.
D'accord.
Il pas comme ça juste parce qu'il a vu de manière qu'il y avait, c'était une maison de disques. C'est des gars qui au départ sont motivés parce qu'ils sont fans des groupes, quoi.
D'accord.
Et après, bon, ça peut le faire ou ça peut ne pas le faire, si le gars sur pas, tant pis, mais bon, c'est pareil, il y a pas de pression, il y a rien, on regarde, et on réajuste les tirs quand il faut le réajuster, mais voilà. Donc il y a deux, trois personnes comme ça qui au départ sont des fans et se donnent les moyens, de le vivre. Voilà.
Ok. Tu prends des stagiaires régulièrement?
J'en ai pris quand j'étais sur Toulouse. J'en prends plus depuis que j'ai déménagé sur Nîmes parce que la configuration. Parce qu'à Toulouse, mon appart, c'était mon bureau et que c'était assez grand pour recevoir quelqu'un qui puisse travailler dans des bonnes conditions. C'est plus le cas maintenant. Je suis moins dans cette démarche.
D'accord. Ouais. Après, ça a peut-être, ça s'est peut-être modifié avec le temps, justement, avec les. Internet se développant aussi de plus en plus, etc. Il y a quand même, on n'a plus besoin forcément d'être à côté de quelqu'un.
Et puis, mon occupation professionnelle ne permettait pas de passer le temps que j'y passe maintenant aussi sur le label. Alors qu'il y avait à la limite plus de boulot parce que tout était à créer. Et donc c'était bien d'avoir les stagiaires pour juste, ne serait-ce que pour préparer les paquets et aller à la poste. Quoi.
D'accord. Dis-moi, est-ce que le fait qu'il y ait eu les shérifs sur le label, est-ce que ça a eu un réel impact sur Kicking Records.
Bien sûr, ouais. Bien sûr, mais il y a eu, ça a été des étapes en fait. Il y a eu aussi la première étape, ça a été le premier tribute au Shérif, qui était la quatrième référence du label, donc ouais. Qui est venu assez vite, qui a permis, qui m'a permis d'avoir un distributeur national.
Ah oui, d'accord.
Où là, les distributeurs nationaux sont dit ah oui tiens, il y a peut-être un, ça vaut peut-être le coup de mettre dans les rayons des Fnac et autres grandes enseignes culturelles. Ça, c'était, voilà, il y a eu cette étape-là. Il y a eu une autre étape avec quand Uncommon and From Mars m'a démarché pour travailler avec moi. Où là, ça a ouvert le label à un autre public.
D'accord.
Ouais. Plus large. Et puis, il y a eu aussi cette étape des Shérifs, bien sûr, hein, qui permet, c'est vraiment une locomotive, hein, c'est-à-dire, qui permet d'ouvrir les portes des salles auxquelles on n'avait pas accès avant. Ouais, tu citais la CIL, bon, pour l'instant, les Shérifs n'y ont pas joué. voilà, toutes ces SMAC en France qui, du coup, s'intéressent via les Shérifs à Kicking Records. Donc oui, ce sont des étapes comme ça progressives.
D'accord. Ça, à chaque fois, tu essayes de caler des groupes... De chez Kicking avec?
Oui, bien sûr, c'est le principe. Ouais.
Et alors, ça devient plus facile maintenant? Les concerts passants?
Oui, ça devient plus facile. Et puis, s'il n'y avait pas eu les Shérifs, on n'aurait pas pu monter le festival qui aura lieu à Paloma. Là, hein.
D'accord. Et oui, c'est quand même sur 2 jours. Qu'est-ce que je voulais te demander par rapport, par rapport au Shérif, justement, là, je vois quand même qu'il y a, c'est peut-être une vue de l'esprit, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a une accélération du nombre de dates. Avec les Shérifs depuis quelques temps quand même, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus motivés que jamais ou qu'ils sont tout simplement en plus dispo ou est-ce que c'est un dernier sursaut avant la fin?
Il y a un peu des trois. Alors ils sont motivés parce que bon de toute façon ils seraient jamais remontés sur scène s'ils n'avaient pas été motivés. Les premiers concerts ils ont vu que ça le faisait, qu'il y avait un très bon retour du public, du coup ça leur a donné envie d'en faire d'autres. Mais pas des masses non plus. Ensuite, il y en a deux qui se sont rendus plus disponibles, soit qu'ils ont perdu leur boulot, soit que voilà. Et donc, les plannings se sont allégés. Du coup, j'ai pu placer plus de concerts.
Ouais.
Et enfin, là, on se rend compte qu'on arrive aussi au bout d'un truc, que c'est pas la peine de le faire tourner encore pendant 10 ans. Et donc là, on fait ce qui vient, et puis ça va... Ça a été gentiment en 2017 ou quelque chose comme ça. Voilà.
D'accord. Baby K.O., qui était aussi un gros groupe, donc grosse formation. Est-ce que c'était juste un truc de passionné, le fait de les faire sur le label? Est-ce que,
c'est pas un truc de passionné. À partir du moment où ils étaient très en contact avec Dead Pop Club, Dead Pop Club avait produit son dernier album chez Chris Gordon, le chanteur guitariste de K.O. Et du coup, ils étaient en contact. Que quand on a su que Baby Chaos préparait un nouvel album, on leur a proposé de le sortir en France, du coup, parce qu'on était tous fans, quoi. Et voilà, mais alors, c'est pas. Alors, ça a été un gros truc, quand c'était sur une major, il y a 25 ans, 20 ans.
Oui, bien sûr.
Mais c'était plus du tout le cas, en fait. Il n'y a pas une énorme réponse par rapport à ça, mais. Ça fait plaisir d'avoir des chaos au catalogue. Hein. Ils sont venus faire 3 dates récemment là, pour les 20 ans de Flying Donuts. Ils sont venus et voilà, c'était un plaisir partagé par tout le monde. Quoi.
D'accord.
Et ils reviendront. Du coup, ils reviendront.
Ok. On va se passer 2 autres morceaux. Il s'agit de Not Scientist et MSL Jax. Un petit commentaire sur les deux. Bon, les premiers, on les connaît. Par cœur.
Notre artiste est donc il y a 2 membres dedans de Uncommon and From Mars. Donc voilà, vu que j'avais sorti 3 disques d'Uncommon and From Mars, c'était un petit peu logique que je m'investisse dans leur nouveau groupe. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le bassiste c'est Thibaut qui est vraiment quelqu'un très proche du label, qui fait partie intégrante du label. Et donc voilà, bosser avec eux, c'était une évidence, et je ne le regrette pas du tout, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est une bonne tranche de rigolade, et tout se passe très bien. Voilà. Quant à Mel Seljak, c'est un peu ce qui reste de la Jarnac, Connection, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'avais Giga Station, j'avais Pegasio, oui. des groupes qui n'existent plus forcément maintenant, mais qui m'ont permis de connaître Jérôme, Miss Chattenfinger, et qui a son groupe Muscle Jack, et qui voilà, fait de la vie que j'aime, et pareil, qui est... Ouais, c'est il y a ce côté grunge qu'on retrouve pas forcément dans les autres groupes du label. Mmh. Et voilà, donc on a fait ensemble deux albums. Mmh. Et c'est cool.
OK. Ben on va s'écouter les deux groupes et on se retrouve juste après. C'est parti. We'll be right back.
sunshine of my life. I know it's pretty ordinary, but it's a start. I'm gonna love you till I die. And I didn't plan to live a long time in your heart. 26 makes you look sexy. When you move your hips and kiss me, 26 makes you look sexy. When you move your lips and tell me the greatest stories in your mind. Imagination is such a small word for what you have. There's no poet with your rhymes, there's no singer with your tone. You're my wind, you're my heart and dream, melodies inside. 26 makes you look sexy. When you move your hips and kiss me, 26 makes you look sexy. When you move your lips and tell me,
donc à l'instant MSL Jax. Alors on va aborder le fameux Kicking Fest. Donc on a dit le 24 et le 25. Tu as fait appel à toute la famille Kicking Records pour travailler dessus, pour travailler sur l'organisation. Bon bref, tu t'es beaucoup fait aider pour ça, ou alors ça c'est la structure qui gère.
Alors au départ, je pensais que j'aurais besoin de, effectivement, j'avais l'habitude qu'on fasse un petit peu en do it yourself, quoi. Et j'ai un petit peu listé toutes les personnes qui pouvaient m'aider. Et puis, en fait, autour de moi, j'ai un noyau assez réduit, sachant qu'on peut s'appuyer sur les permanents de Paloma qui vont quand même faire la majeure partie du taf. Ceci dit, voilà, Thibaut s'occupe de tout ce qui est régie technique. Ouais. Donc en relation, il fait un petit peu la relation entre les groupes et les directeurs, les régisseurs techniques de la salle, pour être sûr que voilà, tout va bien tourner au niveau de ce qu'il y a sur scène, du backline, tout ça, des horaires. Et puis il y a Ben, dont je parlais tout à l'heure aussi, qui s'occupe de tout ce qui est relations médias, pour trouver des partenariats, faire des interviews, tout ça.
D'accord.
C'est vraiment les deux personnes sur lesquelles je m'appuie. Et après, je me suis aussi appuyé sur Sawak, qui est mon webmaster depuis le début. C'est lui qui a fait tous les sites internet en rapport à Kicking, donc hein, kickingreverse.com, kickingradio.com, kickingfest.net. Tout ça, c'est lui. Mmh. Et puis, qui avait fait aussi le premier logo.
Ouais.
Voilà, donc je me suis appuyé sur lui pour faire le site. Et puis, je me suis aussi appuyé sur Alien, le graphiste, qui avait fait toutes les dernières pochettes d'un Common Man for Mars, mmh, pour faire le dessin de l'affiche, qui est décliné en t-shirt et en planche de skateboard, bien sûr. Mmh. Voilà. Et puis, il y a aussi Franck Frejnik qui s'est occupé du livret, du design, du Peter Disc CD qu'on va offrir aux 400 qui auront pris leur passe.
Mmh.
Donc voilà, c'est toujours une équipe avec laquelle j'ai déjà travaillé, avec laquelle j'ai l'habitude de travailler.
Voilà,
c'est 400 personnes. Et sinon, il y a tous les gens de Paloma, quoi.
Voilà. Ok. Tu attends quoi de ce week-end, de ce moment, de ce concert? Qu'est-ce que tu attends particulier? Est-ce que c'est juste à histoire de pointer 10 ans ou est-ce que tu attends un truc particulier?
Non, en fait, pointer 10 ans, c'est juste une excuse. Je m'en fous un peu que ce soit 10 ans, 5 ans ou 25 ans. C'est juste parce que voilà, il y a 10 ans, il y a chiffre rond et que c'est l'excuse pour moi de faire ce festival dont je rêvais depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a fait des petits festivals avec 3, 4, 5 groupes. Mais un gros Kiki Fest avec 20 groupes du label en même temps, voilà, ça va être juste une grosse tranche de rigolade, une grosse tranche de plaisir. À chaque fois qu'on se retrouve comme ça, quand il y a 4-5 groupes, on passe des très bonnes journées, des très bonnes soirées. Je me dis que quand il y en aura 20, ça va être quelque chose, quoi. Voilà. C'est vraiment pour le fun, hein. C'est vraiment pour le fun.
D'accord. C'est 10 ans, là, ce concert, c'est juste une étape ou comment dire dans la vie de Kicking Records ou je sais pas où ça va s'amplifier après ou ça va s'arrêter ou
c'est l'avenir qui nous le dira.
Ouais.
Les trois sont possibles. Alors, en fait à chaque fois que tu fais un truc tu sais pas quelles conséquences il va avoir, surtout que tu tires pas de plan sur la comète parce que tu risquerais d'être déçu.
Ouais, mais là c'est un gros truc quand même. C'est un gros truc.
Ouais, c'est un gros truc. Mais le tout, en fait, c'est pas trop. Moi, je vois pas trop après. Je vois juste là, je suis avant. Et ce que je veux, c'est qu'il y ait assez de monde pour que ce soit pas ridicule.
Ouais.
Ouais, tu vois que les salles soient à peu près remplies et que les groupes jouent devant du monde et que les groupes repartent contents et le public content et que moi, je prenne pas une grosse gamelle.
Ouais.
Voilà. Et après, on verra si ça ouvre d'autres portes ou si ça enferme d'autres. Ça, on sait pas. L'avenir nous le dira.
D'accord.
Tout est un peu au petit bonheur de la chance et au jour le jour.
Hein. D'accord. Et tu dis, j'espère que les salles seront remplies, c'est-à-dire les deux salles vont être ouvertes?
Oui, voilà, les deux salles sont ouvertes et ça va jouer dans les deux salles, dans le club et dans la grande salle.
D'accord. En même temps? Ou non?
En même temps, mais en décalé. C'est-à-dire que tu pourras toujours voir la moitié d'un concert d'un groupe. Quoi.
D'accord. Ok. D'accord. Donc, comme sur un festival.
Voilà.
Voilà. Ok. Est-ce que le Kicking Fest, ça va être juste une succession de groupes ou est-ce qu'il y a des choses différentes qui sont prévues? Je sais pas, moi.
Alors, c'est une succession de groupes dans les deux salles, effectivement, plus... il y aura des émissions de la Kicking Radio qui seront enregistrées sur place, parce que cette salle bénéficie d'un studio de radio.
Ouais.
Donc, comme ça, il y aura des interviews des groupes, il y aura 5-6 animateurs de la Kicking Radio qui seront là, dont toi d'ailleurs, on compte sur toi.
Oui, bien sûr.
Et puis, dans ce grand patio à ciel ouvert, il y aura des DJs. Pareil, des gens qui sont liés à Kicking depuis longtemps et à la Kicking Radio. Il y aura comme DJ Big Didi qui d'Angoulême qui a organisé le premier Kicking Fest au Mars Attack à Angoulême.
Ouais.
Il y aura Toussaint Tong DJ Crew qui sont des mecs de l'émission Toussaint Tong qui a été diffusé longtemps sur la Kicking Radio. Il y aura les Mighty Worm Rocking DJ.
D'accord.
Et donc, ils sont aussi le crew d'une émission radio qui est sur la Kicking Radio. Et il y aura DJ Zucli, qui est un vieux pote à moi de lycée.
D'accord. Ok. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus avant de diffuser deux autres morceaux qui seront les Elbats et Undolor. D'ailleurs, très content qu'Undolor soit là. Parce que, ouais, c'est comme ils sont loin, hein, Poitiers c'est loin, j'ai rarement eu l'occasion de les voir. Donc, qu'est-ce que tu peux me rappeler comme info importante, voilà, par rapport aux places, par rapport à, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste, il reste que des places pour un jour ou je sais pas, moi, enfin.
Il reste des places deux jours aussi. Donc, les tickets pour un jour, ils sont à moins de 25 euros.
Ouais.
Donc, pour voir 10 groupes, c'est pas mal parce que généralement, à ce prix-là, t'en as 3, quoi. Donc, moins de 25 euros. Après, ça dépend des sites sur lesquels tu les achètes. Il y a toujours un euro de différence. Voilà. Et puis, les passes deux jours sont à 38 euros. Pareil, plus les frais de réservation, tout ça, quoi. Et quand tu prends ton pass de jour, eh bien, tu passes au stand, et là, on te donne un picture disc et un CD qu'on a enregistré exprès pour les 10 ans de Kipling. Donc, il y a 14 morceaux, c'est 14 groupes qui reprennent 14 chansons d'autres groupes qui sont parus sur le label.
Okay.
Donc, c'est très intéressant pour les fans. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour avoir toutes les infos pratiques pour se rendre à Nîmes, se rendre à la salle, à savoir que pour se rendre à la salle, il y a une navette de Paloma exprès qui part du centre-ville pour t'amener et qui repart de la salle pour aller au centre-ville. À 2h. Ça commence à jouer à 20h les deux soirs. Ça finit à 2h du matin. Sur kickingfest.net, donc tu as toutes les infos pratiques pour te loger, si tu veux aller en camping dans un hôtel pas cher, il y a tout, il y a les bus, les trains, les avions, il y a toutes les infos pratiques, vous pouvez marcher. Voilà, et regarder les clips des groupes, tout est sur kickingfest.net. Donc, la moindre question, faut aller sur kickingfest.net, c'est tout.
Ok. Eh bien, un grand merci à toi. Et donc, on se retrouve
moi
là-bas.
Moi, je te remercie de t'intéresser à une activité de la sorte.
Ok. Eh bien, donc, à ce fameux vendredi, moi, j'en ai pour 8-9 heures de route à peu près.
Oui, je sais,
c'est d'habitude. Voilà, oui. Tu connais ça, oui. Allez, à bientôt, Stéphane, et merci.
Ouais, ciao.
Salut.
Kill! Kill fans to become-
Voilà, donc un grand merci à Stéphane, alias Mr. Q du label Kicking Records. Donc je vous rappelle, le Kicking Fest, c'est le 24 pardon, et le 25 de ce mois de juin. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a là-bas? Gas Drummers, Last Brigade, Not Scientist, MSL Jacks, Elbat, Sundolor, Cooper, Burning Head, Charlie Fiasco, Forest Pookie, Ghost on Tape, Guerilla Poubelle, Hateful Monday, Les Sheriffs, M. Fallon, Supermunk, The Black Zombie, Procession, The Decline, The Rebel Assault, 6TV, j'espère que je n'en oublie pas. Voilà, les tarifs, il vous les a dit tout à l'heure. Comme je disais, j'ai de la place dans la voiture si quelqu'un veut y aller. Par contre, je partirai le vendredi très tôt et je reviendrai le dimanche. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas, contactez-moi par Facebook, Yann Kerforn, vous rappelez. Et puis voilà, donc c'est cool. Moi, ça me tarde de voir ce festival. Voilà, autre interview la semaine prochaine, je vous dis pas qui. Et puis je vous rappelle que, d'ailleurs parce que je le sais pas, et la semaine d'après, je vous rappelle, ce sera le fameux François Bégodeau. Allez, ciao, bye bye.